Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'enlèvement de la petite Mélodie Nakachian, un tournant dans l'histoire du grand banditisme français. Novembre 1987 à Marbella, sur la Costa del Sol espagnole. Mélodie Nakachian part à l'école, conduite par le chauffeur de ses parents, le milliardaire Raymond Nakachian et Kimera, célèbre chanteuse sud-coréenne. La voiture démarre, mais elle n'a le temps que de faire quelques centaines de mètres. Deux véhicules surgissent de nulle part et bloquent la route. Deux hommes se précipitent sur Mélodie et la forcent à sortir. Ils sont lourdement armés. La fillette disparaît. Il faut trois jours aux ravisseurs pour demander une rançon colossale, 13 millions de dollars, sinon la petite Mélodie sera assassinée. C'est le début d'une course contre la montre pour identifier les suspects et sauver la vie de Mélodie. La voix du crime de cet épisode, c'est Patrick Baudot, ancien chef d'état-major de la brigade criminelle. L'enlèvement de la petite Mélodie Nakachian est une des premières affaires qu'il a eu à traiter. Elle fait partie des nombreux dossiers qu'il raconte avec Laurent Chabrun dans Alias Cristal 18, 34 ans au 36 quai des Orfèvres, ouvrage paru aux éditions Robert Laffont. Bonjour Patrick Baudot.
Bonjour monsieur.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Voix du Crime. Alors il y a cette affaire Nakachian qui va nous faire voyager, qui va nous faire partir évidemment en Espagne et dans les plus beaux coins de l'Espagne, Marbella. Quand est-ce que vous entendez parler, vous, pour la première fois de cette affaire ?
Alors je suis sixième de groupe au groupe Desfarges. Je précise que Michel Desfarges était le chef de groupe qui avait traité l'enlèvement du baron Empain et qui avait une très très grande compétence. Nous sommes donc de permanence et à ce titre nous sommes saisis d'une affaire dans la mesure où la BRI, qui était notre service frère, a détecté des individus liés au grand banditisme qui étaient susceptibles de se livrer à un coup. Et ce coup, la BRI comprend qu'ils sont en liaison avec des voyous espagnols, vraisemblablement dans une affaire d'enlèvement, qui est l'enlèvement de la petite Mélodie Nakachian.
C'est-à-dire, on sait à ce moment-là qu'il y a des voyous français qui sont opérationnels, on va le dire comme ça, en Espagne, c'est ça, c'est l'alerte, elle vient de là.
Une enquête criminelle se divise en trois phases. Première phase, reconstitution d'un puzzle. Deuxième phase, partie d'échecs avec les ou le des assassins. Et troisième phase, le procès d'assises. Michel va me chargé de débrouiller un peu toutes les informations qui vont nous arriver. Parce que des noms, des prénoms arrivent, et il va falloir un petit peu savoir qui a fait quoi, comment. Alors petit à petit, on va avoir des informations que je vais vérifier, et on va s'apercevoir que cette enquête, c'est une enquête sur une multinationale du crime. Pourquoi une multinationale ? Puisqu'une partie des voyous se trouve en France, l'autre partie en Espagne.
Alors justement, qu'est-ce que vous savez de ces Français à ce moment-là qui sont en Espagne ? Vous les avez identifiés, localisés, ils ont déjà un gros pédigré ?
Ceux qui sont en France, c'est une synthèse du grand banditisme français. Vous avez le grand banditisme marseillais avec Malvézy et Angel Garcia, le grand banditisme lyonnais et grenoblois avec les frères Jorgou, Camerini, Pietro, le grand banditisme nantais avec Sampaio, Coelier, Cayol, et la banlieue sud avec Espin Lozon, Idir et Jaraoui et Marc Brousse dit Gogol. On va faire les vérifications, d'avoir essayé de les localiser, savoir s'ils étaient en prison ou pas au moment des faits. Il faut savoir que cette affaire commence aussi par les rois de l'évasion. Camerini, lui, s'évade. Angel Garcia s'évade. Enfin, il s'évade. Il bénéficie d'une permission de sortie, ils vont pas revenir. Et Henri Malvézy, l'un des chimistes les plus efficaces de la French Connection, va, lors d'une permission de sortie, aller en Espagne.
Trois hommes masqués et armés ont enlevé en Espagne la fille, 6 ans, de la chanteuse d'opéra sud-coréenne Kimera et d'un milliardaire arabe. On ignore encore le montant de la rançon que la famille a décidé de payer.
RTL. L'enlèvement de la petite Mélodie a été très spectaculaire. Évidemment, la presse en parle et les ravisseurs à l'époque demandent 13 millions de dollars. C'est très élevé comme somme. Pourquoi est-ce qu'ils demandent un montant aussi exorbitant ?
On a affaire à une star internationale qui est Kimera, la chanteuse coréenne, qui est la maman de Mélodie. Et Raymond Nakachian a la réputation d'être, entre guillemets, un milliardaire libanais. Il faut savoir qu'au départ de cette enquête, on est un peu gêné, puisqu'une rumeur qui va s'avérer fausse nous présente Raymond Nakachian comme lié au grand banditisme, parce que ancien proxénète de Sceaux à Londres. Les vérifications faites vont évidemment infirmer toutes ces affirmations et la presse française qui en aura fait écho sera condamnée pour diffamation. Mais bon, il fallait quand même vérifier.
Alors c'est une famille riche, les Nakachian. Elle est une star de la pop, lui c'est un homme d'affaires averti. Il y a cette immense maison à Marbella sur la Costa del Sol espagnole. Et évidemment, ce mode de vie, cette richesse attire l'attention d'un couple. Les Santoul, ils habitent juste à côté, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Les voyous qui étaient en vacances chez les Santoul ont repéré les Nakachian. La petite Mélodie est devenue une amie d'école de Mélanie Santoul. Il y a des fêtes qui sont organisées à la fois à l'école ou à la villa Mélaniland des Santoul. Et là, ils ont l'idée de effectivement d'enlèvement. En fait, cette villa des Santoul, ça a été le quartier général des ravisseurs. Ils ont pu faire des repérages, ils ont pu observer de près les allées et venues, avoir une identification formelle de la petite Mélanie, puisque Camerini, lors de la fête de celle-ci, va se déguiser en clown pour mieux l'approcher et mieux la visualiser.
Il y a une fête comme ça qui est organisée dans
Absolument.
La maison. Qui a eu l'idée de ce déguisement et comment ça se passe lors de cette fête ?
Alors, c'est Camerini qui a l'idée de se déguiser en clown, ce qui va lui permettre de bien visualiser la petite pour ne pas se tromper de cible. Et comme il y a des très bonnes relations entre les deux familles, même pendant l'enlèvement d'ailleurs, les Santoul vont essayer de consoler les parents, etc. Donc, vous voyez à quel point il y avait quand même une grande hypocrisie.
Le piège est en train de se refermer
Tout à fait.
Autour de la famille Nakachian. Alors la petite Mélodie, elle est enlevée et retenue en otage pendant 11 jours. Qu'est-ce que vous savez de ces 11 jours ? Comment ça s'est passé, cette détention ?
Effectivement, ça a été très dur pour la petite. La difficulté pour les ravisseurs, c'est de faire du 24 sur 24 par rapport à la personne qui est enlevée. Donc vous devez avoir une équipe qui puisse relever l'équipe qui a commis l'enlèvement et surveiller la petite. Ils ont d'ailleurs changé d'appartement. Ce qui était prévu, parce que ça on retrouve une lettre dans le portefeuille de Camerini, où devait être enlevée à la fois la petite Mélanie et son petit frère, Amir, qui était âgé de 3 ans. Ce jour-là, il refuse d'aller à l'école et donc il n'est pas enlevé. Et ils avaient prévu de les éliminer.
Ça, c'est important ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que la cible, elle était double.
Oui,
il y avait le petit garçon et la petite fille.
Tout à fait.
Et vous dites, et vous en êtes sûr, ils avaient prévu de les éliminer.
Oui, oui, il y a une lettre dans le dossier où ça apparaît. À l'époque, on avait été un peu choqués par certains journalistes qui avaient trouvé ces gens-là pas sympathiques, mais entre guillemets, pouvant être séduisants. Alors que c'était des vrais salauds. À un point tel, c'est que deux voyous qui étaient prévus pour faire cet enlèvement, un braqueur de Grenoble et un braqueur de Lyon, ont refusé de monter sur le coup au motif que on ne touche pas aux gosses.
Alors, vous travaillez avec les Espagnols.
Oui.
Et ils sont très heureux, je pense, de vous avoir en collaboration. Comment ça se passe sur place ? Comment travaille votre équipe ? D'abord, qui sont les policiers qui sont allés là-bas ?
Alors c'était mon chef de groupe et le chef de groupe adjoint d'un membre de la BRI, puisque nos deux services étaient saisis sur commission rogatoire de Daniel Fontano, juge d'instruction. Savoir qu'il y a une tradition à la brigade criminelle en matière d'enlèvement, c'est que notre bras armé soit la BRI. Donc on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît, il n'y a pas de concurrence. D'après les policiers espagnols, moi je n'étais pas présent, Raymond Nakachian s'est comporté comme un dur, comme un homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il a vraiment négocié, il a fait baisser la rançon, qui était acceptée par les... Parce que le temps passant, le temps c'est l'ennemi des ravisseurs. Plus le temps passe, moins vous êtes à la fois en sécurité, moins vous maîtrisez la situation. Et donc il aura mis la pression. En revanche, on n'a jamais pu savoir comment il voulait qu'on mette la rançon pour libérer la petite. À aucun moment donné, ils avaient prévu de la libérer, la petite.
Et Kimera, la chanteuse, elle était dans quel état à ce moment-là ?
Une artiste, donc très, 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 très sensible. Elle n'a plus jamais rechanté.
Le milliardaire libanais Raymond Nakachian craint maintenant pour la vie de sa fillette, la petite Mélodie, car les ravisseurs affirment qu'ils ont cessé d'alimenter l'enfant. Monsieur Nakachian, qui est le mari de la chanteuse Kimera, a expliqué que les ravisseurs avaient fait parvenir dans la nuit à la famille une photo de la petite Mélodie, montrant un journal daté du 16 novembre, ainsi qu'une mèche de cheveux et un enregistrement dans lequel les malfaiteurs annoncent leur décision de ne plus nourrir la fillette. Dans un précédent message envoyé dimanche soir, les ravisseurs donnaient jusqu'à mardi, aujourd'hui donc, aux parents de Mélodie pour payer la rançon de 13 millions de dollars, 78 millions de francs environ. Sinon, disait-il, il pourrait arriver quelque chose de désagréable. « Je ne dispose pas de la somme demandée », a dit ce matin M. Nakachian. « Je ne suis pas Paul Getty ni Khashoggi. »
RTL. Patrick Baudeau, comment est-ce que vous parvenez à remonter jusqu'à la cage des ravisseurs ?
On a une chance extraordinaire, c'est que Camerini, faisant un footing sur la plage de Torremolinos, va perdre son portefeuille avec sa photo, de l'argent et une lettre demandant la rançon pour le rapt de la petite Mélodie. Les policiers espagnols vont se mettre sur son dos, le surveiller et essayer de localiser l'appartement où est logée la petite. Quand il voit les policiers espagnols le matin derrière lui, il se rend compte qu'il est pris en filoche, comme on dit chez nous, et là il tire, avec brousse.
Et alors, à ce moment-là, comment va se dérouler l'intervention ?
Les flics français sont assistants. Ils n'ont pas la possibilité d'agir. L'interpellation va se faire en leur présence, mais ce sont les policiers espagnols qui vont déclencher l'interpellation, qui va permettre de libérer la petite. Faut savoir que dans la matinée, Camerini, qui est suivi par les policiers espagnols, s'en aperçoit, et avec Jean-Marc Brousse, font feu sur les policiers espagnols. Ce qui donne le feu vert de l'intervention pour les policiers espagnols dans l'appartement où est séquestrée la petite. Et au moment où les policiers espagnols pénètrent dans les lieux, Jorgou tient la petite par le cou et va essayer de prendre un des deux fusils ayant servi à l'enlèvement, un fusil Mossberg, et c'est à ce moment-là que les policiers espagnols vont tirer et blesser Jorgou à l'épaule.
Et lorsque vous découvrez ce groupe, là, qui est maintenant à visage découvert, oui. L'opération a été réussie, vous avez sauvé la petite Mélodie et c'était l'essentiel. Vous êtes surpris par le catalogue des personnages qui sont là ou vous saviez pertinemment ?
Non, on avait, à la demande de mon chef de groupe, on avait reconstitué un peu leur passé et on s'est aperçu qu'ils se connaissaient tous, qu'ils avaient eu en sorte un mentor qui était Louis Guillot dit Lacarpe, qui avait participé à l'enlèvement du petit Mérieux. Le mode opératoire d'enlèvement Nakachian, c'est le même mode opératoire que l'enlèvement Mérieux, c'est-à-dire une fourgonnette, une voiture qui bloque la voiture de la petite, une fourgonnette, on met la petite dedans et on s'arrache. Je vous rappelle que l'argent qui avait servi permettre de la libération du petit Mérieux n'avait jamais été retrouvé.
Alors vous faites référence à l'enlèvement de Christophe Mérieux, c'était en 1975. On le rappelle, hein, lui aussi fils d'une riche famille lyonnaise, enlevé quand il était enfant sur le chemin de l'école. Sa libération avait été une opération réussie, qui a d'ailleurs servi de modèle à cette opération Mélodie, dont vous nous parlez aujourd'hui dans Les Voies du Crime. Comment est-ce que vous vivez cette libération de Mélodie, avec vos collègues espagnols d'ailleurs ?
Avec une grande jubilation, parce que notre métier, c'est la mort. À la crime, on arrive, la guerre est finie. On a un ou deux ou trois cadavres, voire plus, par exemple, pour l'attentat du Bataclan. Et là, on a quelqu'un en vie. Donc c'est extrêmement jubilatoire. Et on se rend compte qu'on a en face de nous tout le milieu français. Une multinationale du crime.
Et c'est ça,
avec des gens qui sont impliqués depuis des années et des années. Par exemple, Pietto est donné comme un des tueurs du juge Renaud.
Donc on a des pointures, comme on dit chez vous, hein, dans le jargon policier. Bah justement, on en vient à cette galerie de portraits qui est tout à fait étonnante. À la tête du groupe, on trouve donc, vous l'avez cité, Jean-Louis Camerini, Alain Quellier. Bah déjà, qui sont-ils, ces deux personnages, et comment sont-ils arrêtés ?
Ils ont été arrêtés à Barcelone suite à une information qui avait été recueillie par l'antenne PJ de Nantes du SRPJ de Rennes. Il faut savoir que Quellier avait participé au braquage Rolex à Genève. C'était des braqueurs, en fait. Et leur erreur, peut-être, est d'avoir voulu faire cet enlèvement. Sachant que l'enlèvement n'est pas une finalité. Attention, l'argent de l'enlèvement devait servir à racheter de la drogue à Saint-Martin. Il devait revenir en Europe, et plus particulièrement en Espagne, où Henri Malvézy, l'un des chimistes de la French Connection, devait raffiner cette drogue, qu'il appelle, lui, la soupe au pistou.
C'est-à-dire que la famille Nakachian, elle servait de banque, finalement.
Voilà,
on allait se servir, on allait enlever la petite, ou même les deux enfants, et puis ensuite se servir de la rançon pour d'autres trafics, et vous l'avez dit, des trafics de drogue. Alors il y a un autre nom important dans cette affaire, c'est Santoul. Qui est-il ce personnage et qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire?
Ah ben, c'est notre chance. Parce que c'est un cave, comme on dit dans notre jargon. C'est un fils de bonne famille du 16e qui fréquente à l'époque le bar, le Sixteens, d'Edmar Nadine Etienne. Dans ce bar, si je peux me permettre de raconter cette petite anecdote.
Allez-y.
Les fauteuils dans lesquels s'asseyaient les clients et les hôtesses, les dossiers des fauteuils, il y avait des petites rigoles en pente. Et les hôtesses versaient leur coupe de champagne dans ces rigoles, le champagne étant récolté au sous-sol et reconditionné avec de l'Alka-Seltzer.
Rien ne se perd.
Rien ne se perd. C'était, semble-t-il, une tradition dans les bars hôtesses du 16e et du 18e. Il a servi d'intermédiaire entre tous ces voyous et surtout, c'était l'organisateur au QG de la villa, des réunions de tous ces voyous. Il le considérait pas d'une façon extraordinaire. Il s'en servait. En revanche, la patronne, c'était Nadine Etienne, Edmar, en fait, qui était liée, d'ailleurs, au grand banditisme depuis des années, puisque dans son bar, le 16, il y avait cet rendez-vous à repère de voyous.
RTL.
Alors, encore quelques noms, parce qu'ils sont importants, ces noms. Effectivement, ils ont fait l'histoire du crime à cette époque, et ils sont devenus, d'ailleurs, tristement célèbres. Il y a aussi Claude Piéteau.
Claude Piéteau, celui qui s'en tire le mieux dans cette enquête, c'est lui. Il est partout et nulle part. Si je puis me permettre une comparaison, c'est Kaiser Soze.
C'est ça.
On n'arrive pas à le voir. Il est, d'après les informations que nous avons dans le milieu, dans la voiture où les gens vont abattre le juge Renaud. C'est un solitaire, Claude Piéteau. On va finir par le localiser, l'interpeller. Je vais participer à cette interpellation. Et ce qui m'avait marqué, c'est son sang-froid, son absence d'humanité dans le regard. Et juste avant de partir, il nous demande s'il peut aller embrasser son bébé qui est dans le berceau. Et moi qui suis jeune, viens d'arriver assez novice, je vais lui dire oui. Et l'adjoint de Michel Desfarges, qu'on surnommait Serpico, il me dit non, il me prend de côté, il va dans le berceau. Et dans le berceau, il y a un P38 avec une balle dans le canon.
Alors, un dernier personnage, parce que lui aussi, il faut en parler, il faut dire un mot là-dessus, c'est Henri Malvézy. Henri Malvézy, ancien chimiste de la French Connection, la French, comme on dit, effectivement, le trafic de drogue à Marseille. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans cette affaire?
Henri Malvézy, il est dans le même centre de détention que Camerini, que Louis Guillot. Et je vous rappelle que l'objectif de cet enlèvement, c'est pas l'enlèvement en soi, c'est d'acheter de la drogue, de la raffiner, de la... S'ils avaient réussi le coup, ils auraient eu la domination européenne du marché de la drogue.
C'est incroyable, ça veut dire que le chimiste était déjà prévu, c'est ça?
Ah bien sûr. À un point tel, c'est qu'il va, lors d'une permission de sortie, faire un repérage du côté de Barcelone pour monter un laboratoire. Et il se croit en sécurité parce que il revient d'Espagne, il réintègre son centre de détention, il purge sa peine. Alors que j'étais en vacances, mon chef de groupe m'appelle, me dit... Malvézy sort demain matin à 8h. Est-ce que tu veux procéder à son interpellation avec 3 collègues de la crime? Là, j'ai annulé mes vacances, hein. Bien évidemment. On est allé au greffe de la maison d'arrêt de Caen. Je l'ai laissé prendre ses affaires. Il nous a regardé. Il se demandait ce qu'on faisait là. Il savait pas si c'était pour lui ou pas. Je me souviens, il remet sa montre. Je lui dis, Henri, quelle heure il est là? Regarde, 8h05. À compter de 8h05, tu es placé en garde à vue.
C'est incroyable ce que vous nous racontez, Patrick Baudeau, parce que ça veut dire que cette affaire Mélodie Nakachian, elle est beaucoup plus large que ça. On a vu finalement qu'un étage de l'édifice, c'est-à-dire l'enlèvement de la petite fille, et après tout une opération assez banale avec une rançon demandée, même si cette rançon est exorbitante. Mais là, c'est une opération bien plus large qui avait été montée, qui a été très travaillée, très pensée.
Il y a plusieurs points faibles dans cette enquête. Notre point faible, c'est Santoul, qui va être incarcéré. C'est un fils de bonne famille du 16e, se retrouve à la santé.
Il est fragile.
Il est extrêmement fragile. Il a un co-détenu qui est un travesti du Bois de Boulogne. Et là, l'autre va le prendre en main. Il va se confier à ce travesti qui, lui, va voir le directeur de la prison en disant « j'ai des révélations à faire ». Et il nous raconte toute l'histoire, en fait. L'autre point faible, bien évidemment, c'est la perte du portefeuille par Camerini. Et c'est aussi, ensuite, les auditions des différents voyous qui vont en lâcher un petit peu. Angel Garcia va dire que c'est Bruce qui est dans la voiture quand il tire sur les policiers espagnols. Coelier va reconnaître que les fusils Mossberg sont les fusils qui ont servi à l'enlèvement et qui les a vendus à Camerini. Arlette Vidal, la femme de Malvézy, va nous dire « oui, il est allé en Espagne ».
Vous arrivez au bout, vous rendez votre copie et effectivement, il va avoir lieu un procès en 1992 aux Assises du Val-de-Marne. Vous avez témoigné d'ailleurs.
Oui, pour Malvézy. Oui.
Voilà, comme je suppose quelques-uns de vos collègues.
Oui.
Comment ça se passe ce procès? Quelle ambiance règne-t-il sur cette audience?
Alors moi j'étais présent pour ma propre déposition pour Malvézy. Ah oui, il était furieux dans le box. Il se levait, il nous maudissait. Je pense que les condamnations, ça a un peu surpris la presse, mais en fait, il y avait les auteurs de l'enlèvement et entre guillemets les petites mains. Et les jugements ont été, me semble-t-il, à la hauteur de l'engagement ou des preuves qu'on a pu fournir. Mm-hmm. Pietro, il s'en sort très bien. Et Kaiser Soze, mais il prend quand même un an. Par tradition, je ne commente pas les décisions de justice. Et en fait, il y a eu deux justices. Il y a eu la justice de l'État et il y a eu la justice de la rue. Parce que Pietro disparu, Espin disparu, Idir Hijraoui, que j'ai entendu, je lui avais dit, parce qu'il nous avait pris un peu d'eau. Je lui avais dit un jour, je te retrouverai sur la planche à découper. La planche à découper, c'est la table de l'IML. Et j'étais de permanence en tant que procédurier. Il se fait descendre à côté du bar Le Soleil Levant où il avait ses habitudes. À l'autopsie, je me suis retrouvé nez à nez, si on peut dire, face à lui.
Vous citez Idir Hijraoui, alors il faisait partie des ravisseurs qui retenaient Mélodie Nakachian, des ravisseurs qui l'a gardée, cette petite fille. Patrick Baudot, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette affaire, il y avait un cerveau, je dis bien, un cerveau unique, et qui serait-il?
Un metteur en scène, Kaiser Soze, c'est-à-dire Pietro, parce qu'il est froid et c'est le plus malin, parce qu'on n'arrive pas, entre guillemets, à l'accrocher. Celui qui va agir, qui va commander l'opération, c'est Camerini, avec notamment quand ils vont, entre guillemets, arracher la petite. Ensuite, ils vont trouver des lieutenants pour assurer la détention de la petite. Mais c'est Pietro. Avec les conseils de notre ami Guillaume, qui la carpe, qui va se suicider parce qu'il va participer au flingage d'un indique de la police dans les années 2000. Comme il sait qu'il est pris, il va préférer se suicider.
L'affaire Mélodie Nakachian, c'est un point de cassure dans l'histoire du grand banditisme, hein. C'est-à-dire qu'on passe du côté des bandits, des ravisseurs, on va les appeler comme ça, au trafic de drogue, à quelque chose de plus dur et sans doute un peu plus déshumanisé, c'est ça?
Absolument. La tradition des enlèvements, il y a eu le banquier Mallet, l'affaire Mérieux, l'affaire Empin et la petite Nakachian. C'est trop de risques. Ce qui marque, de mon point de vue, la fin d'une époque. C'est-à-dire la fin des braqueurs. Ils vont tous se recycler dans le trafic de drogue. Donc c'est 87-97, c'est vraiment les 10 dernières années des braqueurs.
Ça serait encore possible de reconstituer ce genre de bande avec uniquement, quasiment que des pointures du milieu? On a l'impression qu'aujourd'hui tout ça a été mietté.
Oui, oui, c'est dilué, c'est des gens qui font du trafic de drogue et puis qui au bout de 10 ans vont disparaître. Hein. On sait où on va les retrouver, à Abu Dhabi. Hein.
On est là 40 ans, presque, après cette affaire. Vous l'avez toujours en mémoire et vous continuez à en parler avec passion. Qu'est-ce que vous en retenez de cette histoire? Parce qu'elle vous a marqué, vous arrivez, vous, dans... Vous êtes jeune policier à la CRIM, alors effectivement, pour vous, vous découvrez un décor inhabituel.
Ça m'a permis d'acquérir une culture sur le grand banditisme. J'ai fait des fiches sur chaque voyou qu'on remettait en double à la documentation de la BRI. J'ai aussi découvert le milieu de la nuit, puisque ces gens-là avaient table ouverte à l'Apocalypse qui était tenue par Olivia Valère, avec Torchman, Jury, qui sont devenus des personnages, surtout pour Monsieur Jury, assez célèbres par la suite, et donc de découvrir le monde des voyous. Ça m'a été utile parce qu'on a repris d'autres affaires, notamment l'affaire Genova, où j'avais déjà acquis cette culture-là. J'étais en admiration devant mon chef de groupe, Michel Desfarges, parce qu'un des voyous avait une femme et une maîtresse. Et Michel s'est aperçu que sa femme légitime, il l'avait mis en dehors des affaires. Donc il lui a dit, j'ai compris, je sais que ta femme, elle n'est pas dans le coup parce que tu l'as mis et que c'est ta maîtresse qui sait. Et donc ce voyou lui a dit, ouais, vous avez raison. Ben, je vais vous faire un cadeau. La photo qui est chez moi, vous avez retrouvée, c'est celle de Camerini. Mais je vous rassure, aucun n'est sympathique. Je n'ai aucune fascination pour les voyous.
Vous venez d'écouter Les Voix du Crime sur l'affaire Mélodie Nakachian. Merci à Darine Jedi, Étienne Villan, Louan Daniel et Marisa Fimei pour le son, l'écriture et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez Les Voix du Crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.